Bonsoir. Alors, pour traiter le sujet qui nous occupe ce soir, le sujet est le suivant, c'est « Toute croyance est-elle irrationnelle ?» Je vous propose de commencer par une citation un peu longue d'une pièce célèbre de Molière qui est « Don Juan ». Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette pièce. À l'acte 3, scène 1, on a un célèbre dialogue entre Sganarelle, le valet de Don Juan et Don Juan, le maître, au sujet de la croyance dans le ciel, mais pas seulement. Alors, je vais lire un court passage de Don Juan de Molière. Donc, Sganarelle parle. « Je veux savoir un peu vos pensées à fond. Est-il possible que vous ne croyez point du tout au ciel ?» Don Juan, laissons cela. « C'est-à-dire que non, et à l'enfer, et tout de même, et au diable ?» Oui, oui. Aussi peu, ne croyez-vous point l'autre vie ? Ah ah ah. Voilà un homme que j'aurais bien de la peine à convertir. Et dites-moi un peu, le moine bourru, qu'en croyez-vous, hein ? La peste soit du fa, etc. Je ne vais pas lire non plus toute la scène. Donc on voit qu'on a un dialogue entre le maître et le valet, où le maître a la position de celui qui sait raisonner et qui se moque du peu de force des arguments de Sganarelle, qui lui représente plutôt la ferveur, la croyance, la superstition populaire, et met sur le même plan des croyances dont on aurait plutôt tendance naturellement à distinguer la nature, c'est-à-dire des croyances métaphysiques, l'âme, la vie éternelle, des croyances religieuses, l'enfer, et puis des superstitions populaires, le moine bourru. Bon. Ce qu'on voit aussi, je vais lire la suite ensuite parce que c'est ce qui m'intéresse, ce qu'on voit aussi, c'est que pour essayer de faire croire, le pauvre Sganarelle avoue que son but, c'est quand même de convertir son maître, le pauvre Sganarelle essaie d'argumenter, de prouver. Et puis, découragé, il finit par demander « Mais qu'est-ce donc que vous croyez ?» Et là, on a la réponse célèbre de Don Juan. « Je crois que 2 et 2 font 4, Sganarelle, et que 4 et 4 font 8. Je crois que 2 et 2 font 4, Sganarelle, et que 4 et 4 font 8. » On pourrait dire que cette phrase, c'est une sorte de profession de foi de l'esprit libertin. Vous savez que ce grand seigneur méchant homme, c'est la représentation par Molière du libertin, qui n'est pas seulement l'homme aux mœurs légères, mais surtout l'esprit libre, celui qui précisément ne se soumet pas au joug des croyances, on va dire, socialement obligatoires. Alors, quand Don Juan affirme qu'il ne croit qu'en 2 et 2 font 4, en fait, il développe une phrase paradoxale. Ici, croire, dans « je ne crois qu'en 2 et 2 font 4 », ça veut dire tenir pour vrai. Ça peut être une première définition de la croyance. Croire, c'est tenir pour vrai. J'y crois dur comme fer, ça veut dire je crois que c'est vrai, je tiens cela pour vrai. Et donc, en disant cela, Don Juan ne juge vrai, ne veut juger vrai que ce qui s'appuie sur des raisons démonstratives. On aurait plutôt tendance à dire « je sais que 2 et 2 font 4 ». Mais Don Juan affirme qu'il ne croit que 2 et 2 font 4, c'est-à-dire qu'en fait, il réfute tout bonnement la croyance. Et à l'inverse, il laisse Sganarelle parler, et en fait, il attend un raisonnement, hein, il dit « oh, le beau raisonnement », il se moque de son raisonnement, comme si, finalement, le raisonnement, enfin, selon le point de vue de celui qui croit, selon le point de vue de Sganarelle, comme si le raisonnement était propre à convertir et à faire croire. Et donc, on voit bien que la faiblesse des preuves est manifeste. Et donc, d'un côté, les preuves sont faibles et ne font pas croire. Et d'un autre côté, la faiblesse des preuves n'entame pas la détermination de celui qui croit. Donc, les preuves ne nous font pas douter quand on croit. Et les preuves ne nous font pas croire si l'on est sceptique. Donc, on a une sorte de dialogue de sourds entre Sganarelle et Don Juan. Alors, la question apparaît, si on croit malgré les preuves, si on croit sans faire attention aux preuves, si les preuves, finalement, n'entraînent pas du tout la croyance, eh bien, toute croyance paraît irrationnelle. Et c'est bien le sens de la phrase de Don Juan. « Je ne crois qu'en 2 et 2 font 4 », c'est-à-dire « je ne veux pas croire, je ne veux que savoir ». je ne tiens vrai que ce qui est prouvé. Alors, ici, je voudrais observer un paradoxe. D'un côté, on demande à la croyance de se justifier rationnellement. Il est fréquent qu'on demande « qu'est-ce qui te fait croire ça ? Pourquoi est-ce que tu y crois ? Quel besoin as-tu d'y croire ?» Voilà. Donc, il y a une sorte de processus naturel qui consiste à essayer de justifier ce en quoi on croit. Donc, Sganarelle, ici, se sent obligé de se justifier. Et en ce sens, il y a des raisons de croire, au sens où il y a des justifications qui peuvent être plus ou moins rationnellement acceptables, mais il y a des justifications de la croyance. Je crois parce que ça me plaît, je crois parce que ma grand-mère y croyait, je crois parce que je ne peux pas faire autrement. Mais il y a toujours un processus possible de justification de la croyance. D'autre part, ce processus de justification, il est naturel parce que nous sommes des êtres de raison et en tant qu'êtres rationnels, la force des habitudes, les sentiments subjectifs, les opinions, les préjugés, les craintes, tout cela ne nous semble pas des critères suffisants de vérité. Et donc, tout ce qui porte à croire, que ce soit le sentiment, l'opinion, le préjugé, l'habitude, tout ce qui nous porte naturellement à croire, on sent bien que ça n'est pas suffisant pour fonder un véritable savoir. D'ailleurs, on pourrait dire que, d'une certaine manière, c'est l'effort même de la philosophie depuis son origine que d'interroger les croyances et de leur montrer leur peu de fondement et d'essayer d'amener les gens à chercher à passer du registre de la croyance ou de l'opinion à un véritable savoir. Alors, ici, juste un petit point, quand je parle de croyance, évidemment, je n'entends pas seulement croyance religieuse, même si il va en être question, il va être question de la foi, des croyances religieuses, de la religion, mais croyance, c'est un terme beaucoup plus large. Croire, c'est tenir pour vrai, donc tout ce qu'on croit vrai, comme par exemple que la Terre est ronde, ou qu'elle est plate, ou que le soleil tourne autour de la Terre, ou que les Polonais sont tous alcooliques, que les Français sont des coureurs de jupons, etc. Tout ça, c'est des croyances. Hein, voilà. Donc, on sent bien que si la croyance, elle résulte de l'habitude, ou du sentiment, ou du préjugé, elle n'est pas suffisamment fondée pour prétendre légitimement au vrai. Et on voit par exemple le personnage de Socrate dans l'œuvre de Platon. On pourrait résumer ainsi son projet, c'est d'interroger les Athéniens sur leurs croyances pour essayer de leur faire questionner leurs propres préjugés afin de revenir au fondement d'un véritable savoir, afin d'arriver à un véritable savoir fondé. Hein, il y a cette métaphore dans l'Apologie de Socrate, de Platon, où Socrate lui-même se désigne comme étant le temps, c'est-à-dire le moustique, quoi, le temps qui tout le jour ne cesse de réveiller. Donc la croyance, c'est plutôt cette force de l'habitude qui nous met dans un certain sommeil, une certaine passivité par rapport à la vérité et qui nous empêche de chercher le savoir véritable. Donc je disais, d'un côté, il est vrai que les croyances nous semblent insatisfaisantes pour juger le vrai, juger vrai, et donc on a tendance à demander à celui qui croit de se justifier. Nous sommes des êtres de raison, nous sommes des êtres rationnels, donc nous cherchons des justifications à nos affirmations. Pourtant, d'un autre côté, demander à une croyance de se justifier, c'est-à-dire, en un sens précis, d'essayer de fournir une preuve de ce qu'elle tient pour vrai, d'accord ? Dire au croyant, pourquoi tu crois à ça ? Comme le fait Don Juan vis-à-vis de Sganarelle. Montre-moi ton raisonnement, hein ? Montre-moi ton raisonnement pour l'enfer, pour Dieu, pour le diable, pour le moine bourru. Demander à la croyance de se justifier rationnellement en fournissant une preuve de sa vérité, en fait, c'est nier le caractère propre de la croyance, parce que si l'on démontre, on n'a plus à croire. Donc, je voudrais interroger ce paradoxe-là. C'est-à-dire, on dit que la croyance est irrationnelle parce qu'elle n'est pas capable de prouver. Mais en même temps, si on veut que la croyance soit prouvée, on élimine la croyance. Autrement dit, est-ce qu'il y a des raisons de croire ? Est-ce que croire peut être raisonnable, voire rationnel, sans pour autant que la croyance soit le produit ou le fruit d'une démonstration? Hein, vous avez bien compris que croire que 2 et 2 font 4, croire en quelque chose de démontré, c'est ça qui est absurde. On ne croit pas ce qui est démontré, on le sait, c'est tout, ou on l'ignore. Donc, mon hypothèse, ça va être de montrer que croire n'est pas forcément irrationnel, même si on ne croit pas à ce qui est démontré, évidemment. C'est d'ailleurs cela qui est fou. Ce qui serait fou et absurde, ce serait d'avoir à croire ce qui est en fait démontré. Donc, je vais poser cette question. Est-ce qu'on croit seulement parce qu'on est naïf ou crédule? Ou autre option, est-ce qu'on croit simplement pour des raisons purement subjectives, par sentiment, par habitude, par préjugé? On croit parce qu'on le sent, on croit parce que ça nous amuse, on croit parce que notre grand-mère croyait, voilà, ce genre de, si vous voulez, d'arguments purement subjectifs. Donc est-ce qu'on croit simplement par naïveté, crédulité, bêtise, ou éventuellement simplement pour des raisons purement subjectives, ou est-ce qu'il peut y avoir des raisons de croire, des croyances qui seraient raisonnables, ou en tout cas non dénuées de raison, sans pour autant, évidemment, dire qu'elles sont prouvées? Parce que si on dit que la croyance est prouvée ou démontrée, que la croyance est vraie absolument, comme un savoir, évidemment, ça n'est plus une croyance. Ça nous permettra d'établir des degrés entre les croyances. Dans le préambule sur Don Juan, j'ai remarqué qu'en fait, l'esprit libertin, qui est l'esprit libre, qui est Don Juan, il associe toutes les croyances. Hein. Il met sur le même plan les superstitions, croire aux moines bourrus, des postulats métaphysiques et des croyances religieuses, l'enfer. Bon. Poser la question de savoir s'il peut y avoir des raisons de la croyance, une certaine rationalité de la croyance, c'est aussi amener à faire des distinctions entre des types de croyances. Il me semble que c'est pas la même chose de parler de superstition, d'illusion, de préjugés, d'opinion, de conviction, de postulat, d'hypothèse. Tous ces concepts désignent en fait le registre du non démontré. Hein. Superstition, illusion et préjugés, évidemment, c'est pas démontré. Opinion, conviction, non plus. Postulat, hypothèse, non plus. Et pourtant, il y a des postulats et des hypothèses dans le domaine du savoir. Donc, on va être amené à distinguer différents types de croyances en fonction du rapport de la croyance à une certaine forme de rationalité. Voilà, et montrer qu'il y a des degrés dans le champ du non démontré, voire du non démontrable. Alors, je vais procéder en trois temps. Tout d'abord, dans une première partie, donc, on verra que l'irrationnel, qu'est-ce que c'est ? C'est ce qui est illogique, contraire aux règles et aux lois de la raison. On verra qu'il y a effectivement des croyances irrationnelles au sens où elles contredisent la raison, la rationalité. Et l'irrationnel, c'est toujours dans la première partie, c'est aussi le pulsionnel, le non volontaire. Hein, quand on dit par exemple « elle a des sentiments complètement irrationnels », ça veut dire qu'elle vit des pulsions, hein, d'une certaine manière. Il y a du pulsionnel, de l'involontaire en elle. Donc voilà, on analysera ces deux registres de l'irrationnel, à la fois l'illogique dans le champ du savoir et puis le pulsionnel, ce qui est contraire au volontaire. Et donc ça va nous permettre d'examiner s'il y a, d'examiner quels sont les ressorts irrationnels de la croyance, parce qu'il y en a. Première partie. Deuxième partie, nous verrons que, cependant, certaines croyances ne sont pas dénuées de raison. Il y a des croyances raisonnables, c'est-à-dire qui ne contredisent pas la raison, premièrement, et qui ne sont pas involontaires. On peut décider de croire. Parfois, on a même besoin de croire. Voilà, donc ce sera ma deuxième partie. Et dans la troisième partie, j'essaierai de défendre l'idée que seul un être doué de raison peut croire. Il faut avoir une raison pour croire. Les animaux ne croient pas. Seul un être de raison peut croire, mais croire, ce n'est pas raisonner. Voilà le paradoxe que j'essaierai de tenir dans la troisième partie. Seul un être de raison peut croire, mais croire, ce n'est pas raisonner. Alors tout d'abord, première partie, les ressorts irrationnels de la croyance. Alors tout à l'heure, je disais que nous demandons des raisons parce que nous sommes des êtres de raison. Mais nous croyons parce que nous sommes pas seulement des êtres de raison. Alors, dans un premier sens, irrationnel, donc c'est sans rationalité. Hors du champ de la rationalité, voire contradictoire avec la rationalité. Alors on peut dire que, en fait, formellement, si on examine certaines croyances, une croyance, elle peut se résumer par une affirmation, une assertion. Je crois que l'âme est immortelle. Je crois que la Terre est ronde. Alors vous allez me dire, on ne le croit pas, on le sait, que la Terre est ronde. Oui, mais en fait, on le croit, parce que si on le sait, c'est parce qu'on nous l'a dit, parce qu'on nous l'a enseigné. Et à moins d'être un explorateur, à moins d'être physicien ou astronome, en fait, on le croit. On croit ceux qui nous l'ont enseigné. Bon, je reviendrai sur cette question-là de la valeur du témoignage ou la valeur de l'autorité des maîtres dans le paragraphe suivant. Je m'égare un peu. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que, donc formellement, l'affirmation de la croyance, comme par exemple, je crois que tous les Polonais sont alcooliques, là, au moins, on est sûr que c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait fondé, elle est marquée par une contradiction, en fait. Alors, la rationalité, elle repose sur des lois. On peut dire, pour simplifier beaucoup les choses, qu'il y a des lois du raisonnement, et la première loi du raisonnement, c'est le principe de non-contradiction. Bon, alors, je ne vais pas faire de logique, hein, mais le penseur qui a formalisé la logique, c'est Aristote, enfin le premier hein, dans l'histoire de la pensée. Et Aristote dit qu'on ne peut pas penser qu'une chose est et n'est pas en même temps et sous le même rapport. C'est impossible, c'est au-delà de tout ce qu'on peut penser. Donc la rationalité commence avec le principe de non-contradiction. Une chose n'est pas elle-même et son contraire en même temps et sous le même rapport. Et en fait, on remarque que nos croyances sont très souvent contradictoires. De même, il y a des lois de la rationalité pour la connaissance de la nature, c'est-à-dire qu'on connaît la nature à travers des lois, des régularités. Ce qui permet de considérer que la nature est prévisible. Et bien de même, il y a des croyances qui contredisent totalement les lois de la nature. Alors, je vais donner des exemples. Par exemple, au réveil, Proust décrit ça dans certains passages de La recherche du temps perdu à La recherche du temps perdu. Au réveil, il arrive qu'on ait l'impression d'être à la fois dans ce lieu et dans le lieu dont on vient de rêver. Quand on sort d'un sommeil très profond. Je ne sais pas si vous savez écouter ces passages où Proust se réveille au bord de la mer, mais il croit encore être dans son appartement, enfin le narrateur de la recherche, il croit encore être dans son appartement parisien. Et pendant un court moment, il est dans les deux à la fois. Donc on peut dire qu'ici, on est dans le registre de la croyance, parce qu'il y a une sorte d'ubiquité qui est totalement contradictoire avec les lois de la nature. Deuxième chose, dans des croyances comme la mauvaise foi, l'aveuglement volontaire, on peut savoir quelque chose et affirmer, et savoir en même temps ou croire, dur comme fer, la vérité du contraire. Alors je ne sais pas si par exemple un enfant ou une amie, j'ai des élèves dans la salle qui connaissent cet exemple par cœur, mais c'est pas grave, c'est celui qui me vient. Si une amie est amoureuse d'un escroc, vous aurez beau lui mettre la vérité sous les yeux, à la fois elle le voit, elle le sait, peut-être même s'est-elle fait extorquer de l'argent, et en même temps, elle l'aime, comme on dit, l'amour rend aveugle. Donc on peut, dans l'aveuglement volontaire ou la mauvaise foi, à la fois savoir et en même temps croire le contraire. Donc il n'y a pas de principe de non-contradiction qui tienne, quoi. Alors, je vais prendre comme référence philosophique une correspondance que le philosophe Spinoza, au XVIIe siècle, a entretenue avec un jeune homme qui s'appelle Boxel, dont on ne sait pas grand-chose. On sait juste que donc, ça s'écrit B-O-X-E-L, correspondance avec Boxel. Il y a 4-5 lettres entre Spinoza et Boxel. Peu importe ce jeune homme, mais on a gardé les lettres qui se sont échangées sur la question de la croyance. Et Boxell, donc, ce jeune homme, demande à Spinoza, j'aimerais connaître, qui était un esprit donc célèbre, connu en son temps, donc ce jeune homme interroge ce penseur et lui demande son opinion au sujet des spectres. Je voudrais connaître votre opinion sur les apparitions, les spectres ou les esprits. Donc, existe-t-il des esprits sans corps ? Que penser des fantômes ? Que penser de ceux qui croient aux fantômes, de ceux qui en ont parlé ? Voilà. Alors, Spinoza lui répond d'abord en lui reposant une question, comme le font souvent les philosophes, d'ailleurs, à qui on attend, dont on attend souvent des réponses et qui ne font que reposer des questions. Vous l'avez peut-être remarqué. Et donc, Spinoza lui demande, avant de lui répondre, de lui donner son propre avis sur la question, de se justifier, de donner des raisons. Et en fait, Spinoza est malin, c'est qu'il sait bien que, demandant à Boxell de justifier sa croyance dans les spectres, Boxell va lui fournir un argumentaire rationnellement intenable. Et donc, en effet, c'est ce qui se passe. Alors, je vous cite en vrac les raisons qui font que Boxell croit à l'existence des spectres. Donc, il dit l'autorité des anciens. Les anciens en ont parlé dans leur texte, donc c'est vrai, forcément, ça existe, ils en ont parlé. Donc, Spinoza va répondre, bon, moi, l'autorité, je m'en fiche. Et c'est pas parce que les anciens l'ont dit que les spectres existent. Ensuite, des arguments théologiques et métaphysiques. Alors, la beauté de l'univers, donc il faut des spectres. Vous voyez, c'est pas très convaincant. L'harmonie des créatures, donc il faut des créatures avec des corps et des créatures sans corps. L'espace atmosphérique qui doit être rempli jusqu'aux confins de l'univers, rempli d'habitants. Donc, il faut bien supposer qu'il y a des esprits qui puissent vivre jusqu'aux confins de l'espace, bon, etc. etc. Donc, en fait, Spinoza n'a plus grand-chose à faire, hein, sinon à montrer le peu de teneur logique et rationnelle des arguments de Boxell. En fait, ce qu'il dit, c'est que ce que Spinoza dit à Boxell, c'est qu'en fait, Boxell prospecte parce qu'il postule un certain nombre de thèses métaphysiques. Comme par exemple que le monde doit être beau et harmonieux, ou qu'il existe des esprits sans corps. Ces thèses-là, il les postule, mais jamais il ne les démontre, et donc on n'a rien d'un raisonnement logique. Je vous lis juste la phrase de Spinoza dans la deuxième ou troisième lettre à Boxell. « Ce que je peux dire d'une manière générale de tous ces arguments, c'est qu'ils semblent être des conjectures plutôt que des raisons. » Des conjectures plutôt que des raisons. Il m'est difficile de croire que vous les teniez pour des raisonnements démonstratifs. Donc là, on le voit, effectivement, il y a quand même une épreuve de la démonstration pour la croyance. Il y a une épreuve de la démonstration. Si la démonstration réfute, si on peut réfuter rationnellement la croyance, évidemment, la croyance ne tient pas. Donc tout l'enjeu, j'anticipe un peu, mais tout l'enjeu, ça va être de se demander s'il y a des croyances non réfutées. Quand la croyance est réfutée, comme les superstitions, la croyance n'a pas de valeur parce que nous sommes des êtres de raison. Donc nous ne pouvons pas croire à ce qui est rationnellement réfuté. Alors, donc Spinoza a vite fait de montrer qu'il n'y a pas de valeur du raisonnement de croyance. Et il va chercher les causes de ces croyances. Ce qui intéresse Spinoza, c'est d'où vient qu'un homme comme Boxell puisse avoir cette croyance, croire en des spectres. Hein. Ça l'intéresse de savoir d'où viennent les croyances. Alors, c'est le deuxième point de cette première partie. En fait, l'irrationnel, ça veut dire aussi ce qui est passif, ce qui est non volontaire. Nous croyons passivement. En fait, on dit « je crois », mais il faudrait peut-être dire avant « j'ai des croyances ». J'ai des croyances dont je ne me suis pas forcément toujours aperçue, d'ailleurs. Hein. Comme je le disais tout à l'heure, souvent on croit savoir, mais en fait, on croit savoir. Hein. On dit « je sais », mais c'est souvent « je crois ce qu'on m'a dit ». Bon, alors souvent ça tombe juste, mais parfois ça tombe faux. Alors, c'est justement ce qui pose problème à Spinoza et avant lui à Descartes, au XVIIe siècle aussi. Nous tenons pour vrai ce que nous n'avons pas du tout volontairement choisi de tenir pour vrai, au sens où on ne l'a pas examiné. Pour Descartes, dans le domaine de la rationalité et du savoir, c'est-à-dire le domaine qui prétend à la vérité, il n'est absolument pas admissible d'avoir des croyances au lieu du savoir. Donc vous connaissez, alors je vais pas résumer toute la philosophie de Descartes là, parce que je voudrais vite aller à Spinoza, mais en fait, disons que ici l'anticroyant dans le domaine de la connaissance vraie, hein, c'est Descartes quoi. Alors un Descartes peut-être un peu caricatural, mais on peut dire que tous les philosophes qui ensuite ont essayé de penser le caractère positif de la croyance, ils sont tous passés par une critique de Descartes. Donc je pose un petit peu les bases de la rationalité cartésienne. Donc vous connaissez, vous avez entendu parler du discours de la méthode. Qu'est-ce que c'est que cette fameuse méthode pour arriver au vrai ? Vous savez que pour Descartes, tous les hommes ont une raison, le bon sens est la chose du monde la mieux partagée, mais le problème c'est que les hommes ne savent pas s'en servir de cette raison. Donc il faut faire une méthode, il faut les aider à s'en servir. Alors la méthode c'est le doute hyperbolique. C'est-à-dire que dans le domaine du savoir, on ne doit rien admettre. Donc toute la tradition, tout ce qu'on nous a enseigné, on le met entre parenthèses avant d'être sûr d'atteindre la certitude. Enfin, avant d'atteindre la certitude, pardon pour le pléonasme. Et donc, dès lors qu'il y a une raison de douter, on doute. Par exemple, il arrive que parfois nos sens nous trompent. Donc il y a des exemples dans l'histoire de la philosophie depuis l'Antiquité très célèbres. Il arrive que parfois, mais c'est très rare quand même, hein, on voit un bâton qui est droit, on le met dans l'eau, il est brisé. Bon, ça arrive une fois tous les... je ne sais pas combien. Mais il arrive qu'il y ait des hallucinations, des illusions d'optique, etc. Eh bien, parce que ça peut arriver rarement, même très peu de fois, mais parce que ça peut arriver au moins une fois, alors on va remettre en doute toutes les données des sens. Donc, je vous rassure, le doute hyperbolique, il n'est pas définitif, hein, contrairement au scepticisme antique. Donc, de même, parce qu'il m'arrive parfois de confondre le rêve avec la réalité. Parfois, quand je rêve, souvent, la plupart du temps, quand je rêve, je ne sais pas que je rêve. Hein. Bah, qu'est-ce qui m'empêche de penser que, en fait, quand je suis éveillée, eh bien, je dors. Bon, la vie est un songe. Ça a été repris par beaucoup de films d'ailleurs, hein, beaucoup de fictions. La vie est un songe, c'est une pièce de Calderon à la même époque, au 17e je crois aussi. Mais je sais pas, on peut penser à Matrix, on peut penser à n'importe, à beaucoup de fictions hein, sur ce thème-là. Qu'est-ce qui finalement nous assure de la vérité de ce que nous tenons pour vrai ? Alors donc, toutes nos croyances, par la méthode du doute hyperbolique, passent par une sorte de tribunal de la raison. Voilà, la raison doit examiner. Il y a une métaphore que prend Descartes, c'est la métaphore du panier de pommes. Comme dans un panier de pommes, on doit d'abord toutes les sortir, puis regarder une à une si elles sont pas pourries, et on ne gardera que celles qui ne sont pas pourries. Bien de même, on va mettre de côté tout ce que nous tenons pour vrai, et puis examiner un par un, une par une, nos croyances. Et si vraiment on atteint la certitude, c'est-à-dire si on est incapable de douter, alors on va les garder comme vrais et on va pouvoir reconstruire, dit Descartes, l'édifice de la connaissance. Alors, vous connaissez la fin de l'histoire, c'est qu'en fait, il trouve une certitude dont on ne peut pas douter. Indubitable, c'est « je pense ». « Je pense ». Donc, dès lors que je le dis, on aurait beau me tromper, j'aurais beau rêver, j'aurais beau imaginer, au moins je suis sûre que lorsque je me trompe, je pense. Voilà. Bon. Donc, il faut trouver cette certitude. Et c'est de là que vient le problème de la rationalité de la croyance. Vous voyez ? C'est que, évidemment, si seule la certitude est la norme du vrai, quelle est la valeur de vérité de la croyance ? Il n'y en a pas. Alors, Spinoza, lui aussi, retient que dans le domaine de la connaissance, on doit chercher à ne rien admettre comme vrai. On ne doit pas admettre comme vrai, dit Spinoza, ce qui est seulement vraisemblable dans le domaine de la croyance. Il dit, certes, dans la vie quotidienne, il prend un exemple, l'homme périrait de faim et de soif s'il ne voulait boire et manger qu'après être parvenu à parfaitement démontrer que la nourriture et la boisson lui sont profitables. Évidemment, ça, c'est la caricature qu'on fait souvent des philosophes. Les philosophes, avant de faire n'importe quoi, est-ce qu'ils se posent vraiment des questions pour savoir s'ils arrivent à démontrer la vérité de tout ce qui doit être entrepris ? Non, hein, les philosophes ne sont pas idiots. Descartes comme Spinoza sait que, dans le domaine de la morale et de l'action, la vie n'attend pas. Hein, donc, on va se contenter de vraisemblables. Mais dans le domaine de la connaissance, il faut du certain. Sauf que la différence entre Spinoza, enfin avec de Spinoza avec Descartes, c'est que lui ne pense pas qu'il suffira de produire des démonstrations vraies pour dissiper les croyances. Les croyances sont beaucoup plus profondément enracinées que ça dans l'esprit humain. Je disais tout à l'heure, on croit parce qu'on n'est pas seulement des êtres de raison. Et donc Spinoza est intéressant pour comprendre le ressort irrationnel de la croyance. Ce que dit Spinoza, c'est que l'idée fausse n'est pas supprimée par la présence du vrai. Donc vous pouvez lire ça si l'éthique de Spinoza vous tente. Mais bon, je ne conseillerais pas ça comme lecture de chevet. Hein. Donc c'est quatrième partie de l'éthique, intitulée « De la servitude humaine ». Et proposition 1. Donc, la citation exacte est « Rien de ce qu'une idée fausse a de positif n'est supprimé par la présence du vrai en tant que vrai. » Il prend l'exemple du soleil. Nous voyons le soleil, je crois que c'est à 200 pieds, je ne sais plus exactement la mesure de l'époque. Bon, nous croyons, quand nous le regardons, que le soleil est proche. Hein, c'est une impression que nous avons. Vous allez en cours de physique ou de géologie, je ne sais plus, bon, et on vous apprend dans l'enfance qu'en fait, le soleil est à des milliers de kilomètres de la Terre. Ça ne va pas changer votre perception du soleil. Et donc, quand vous sortez de la salle de classe, vous regardez le soleil, vous avez toujours l'impression qu'il est près. Donc, ce n'est pas parce qu'on connaît le vrai que la croyance, l'impression de croyance, est supprimée. Pourquoi je dis impression de croyance ? Parce qu'en fait, pour Spinoza, la croyance, elle est liée au fait que le corps a une puissance sur nous. Et en fait, si nous croyons voir le soleil si près, c'est du fait de la puissance de notre corps qui va toucher notre imagination et donc nous donner cette impression que le soleil est proche. Et comme je disais tout à l'heure, vous aurez beau dire à votre amie qu'elle est amoureuse d'un escroc, elle aura beau même le voir, être mise parfois en présence d'épreuves, elle continuera à croire, parce que peut-être les passions amoureuses font qu'elle ne peut pas ne pas croire. Donc c'est en cela qu'il y a une passivité fondamentale de la croyance. On croit parce que le corps, les passions, ce que les philosophes du XVIIe appellent les passions, ça signifie en fait la passivité de l'âme, les passions nous inclinent à croire. Alors, pour Spinoza, d'ailleurs, comment on fait du coup pour lutter contre nos croyances et nos passions ? Pas par des raisons, pas par des raisonnements, mais par des croyances plus fortes. Donc, enfin, par des passions plus fortes. Par exemple, pour faire arrêter de fumer quelqu'un, c'est bien de le raisonner, mais le plus simple, c'est de lui faire peur. De lui dire, tu auras un cancer, tu vas mourir. Ça marche pas tellement non plus d'ailleurs. On pourrait dire. C'est vrai que mettre des images abominables sur les paquets de cigarettes, ça marche pas non plus. Sûrement parce que la croyance dans une sorte d'immortalité, je ne sais pas, est plus forte. Alors, je ferme la parenthèse de la cigarette, mais alors juste pour quelques-uns, les sages, les philosophes, on pourra apaiser les passions et transformer les croyances en savoir, non pas en donnant des preuves, en mettant en présence du vrai, mais en essayant de comprendre les causes de nos croyances. Donc, par exemple, je vais pas, c'est pas parce que on me donne la preuve astronomique que le Soleil est à des milliers de kilomètres de la Terre, je sais pas combien en fait, hein, du tout. 150 millions, oui, d'accord, des millions. Ouais, je me disais 1000, je suis pas dans la bonne échelle. Donc, c'est pas parce qu'on me dit que le Soleil est à des millions de kilomètres de la Terre et qu'on me le prouve et que je le tiens pour vrai que je que l'impression qu'il est proche se dissipe. D'accord ? Donc la présence du vrai ne dissipe pas la croyance. En revanche, comprendre pourquoi je vois le soleil si proche, ça va contribuer à dissiper la croyance. Comprendre, autrement dit, les propriétés rétiniennes de la perception de l'œil. Voilà. De même pour le bâton tout à l'heure, comprendre pourquoi je vois le bâton brisé. Parce qu'en fait, il y a quelque chose de vrai là-dedans. Voir le bâton brisé ou croire que le soleil est proche, c'est le jugement qui est faux, mais la perception n'est pas fausse. Le jugement, c'est croire qu'il en est ainsi, qu'il en est tel que je le perçois. Mais en revanche, le fait de percevoir les choses ainsi, ça me renseigne sur une vérité. une vérité des propriétés de ma perception. Voilà. Et donc, en fait, pour Spinoza, c'est pas par des preuves, par des démonstrations, qu'on va dissiper la croyance, mais par la compréhension des causes mêmes de la croyance. Ce qui m'amène à un point tout à fait décisif, il faut vraiment que j'accélère, en fait. On a jusqu'à 9h30 pour 9h15. Okay. C'est qu'on voit qu'en fait, s'il ne suffit pas d'être en présence du vrai pour arrêter de croire, c'est qu'en fait, la croyance est une illusion. Qu'est-ce que c'est qu'une illusion ? Alors, on distingue classiquement l'illusion et l'erreur. L'erreur, c'est dire faux, voire croire faux, mais l'erreur a pour cause l'ignorance. Et donc, quand on est mis en présence du vrai, eh bien, on corrige son erreur. L'illusion, c'est justement ça, c'est cette erreur qui ne se dissipe pas par la présence du vrai. Il y a un exemple que je trouve assez frappant, enfin qui n'est pas très réjouissant, hein, pardon, mais il y a un roman d'Emmanuel Carrère, je ne sais pas si vous voyez ce romancier actuel, qui a écrit sur l'affaire Jean-Claude Roman. Enfin, ce n'est pas un roman d'ailleurs, hein, c'est un récit qui s'appelle L'Adversaire. Et ce fait divers, c'est, vous savez, un faux médecin en fait, cet homme qui a tué dans l'Ain toute sa famille, parce que ça faisait des années qu'il leur faisait croire qu'il était un médecin de l'OMS et qui partait tous les matins travailler. En fait, il passait ses journées sur des parkings de supermarché. Pardon pour la teneur très glauque de mon propos. Mais l'écrivain, donc Emmanuel Carrère, s'est intéressé à Jean-Claude Roman. Et on voit qu'il essaye de comprendre comment... Alors déjà, bon, évidemment, les mobiles ou les ressorts de ce crime atroce, qui d'ailleurs est proche de la tragédie grecque, parce qu'on n'arrive pas vraiment à expliquer... Et surtout, la question de savoir, mais comment se fait-il qu'on ait pu croire à un tel dispositif, quoi ? Comment une femme, des enfants, des amis peuvent croire à un tel mensonge ? Et c'est vrai que face à de tels phénomènes, on se dit, mais comment est-ce qu'on peut croire à quelque chose d'aussi invraisemblable ? Alors, la réponse, comment se fait-il quoi, que la racine de l'illusion soit si profonde ? La réponse, c'est que, en fait, il y a un désir à la base de toute croyance. Et il y a un désir qui fait tenir dans l'illusion. On tient à nos illusions. En fait, notre rapport au vrai et au faux, il n'est jamais neutre. On veut croire vrai ou on veut croire que c'est faux. Alors, le philosophe qui nous a montré ça, c'est Nietzsche. Nietzsche, il fait une critique très sévère de la rationalité occidentale. Et en particulier, il tire à boulet rouge sur Descartes et puis Hegel. Son argument principal, c'est de dire que quand on tient quelque chose pour vrai, il y a toujours derrière un désir. On croit que c'est vrai parce que c'est ce dont on a besoin, parce que c'est ce qu'on désire. Et il dit que même la rationalité, elle a comme fondement une croyance. C'est-à-dire que même les scientifiques et les philosophes qui se targuent de ne pas laisser place aux croyances, même eux, en fait, ils ont une profonde croyance. Il y a de l'irrationnel dans le rationnel lui-même. Alors, je vous donne quelques citations, si vous voulez aller voir, parce que c'est, pour le coup, assez amusant à lire. Donc, par exemple, le Gai Savoir, paragraphe 344. Il dit « Dans la science, les convictions n'ont pas droit de citer. » Et puis un peu plus loin, « On voit que la science, elle aussi, repose sur une croyance. Il n'y a pas de science sans présupposé. » C'est quoi cette croyance ? C'est la croyance en la possibilité de la certitude. En fait, croire qu'il est possible d'atteindre la certitude pour l'esprit humain, enfin... postuler qu'il est possible pour l'esprit humain d'atteindre la certitude, c'est une croyance. C'est une croyance dont a besoin le savant pour justifier sa propre pratique. Il parle de l'aspiration à la certitude du positiviste. Et il le dit avec beaucoup de mépris. Il pose la question, vous pourrez aller voir aussi le paragraphe 347, je ne vais pas trop m'étendre parce que je voudrais vraiment avancer. Et puis, par-delà le bien et le mal, notamment la première section, qui est une attaque en règle de ce qu'il appelle les préjugés des philosophes, et notamment le préjugé qu'on peut atteindre la vérité, le préjugé du vrai et du faux. Donc Nietzsche montre qu'en fait, les croyances les plus tenaces, ce sont celles qui s'ignorent parce qu'elles se croient fondées, justement. Donc la croyance la plus tenace, c'est la croyance en la vérité, parce que justement, elles se croient fondées. Elles croient être à l'abri de la croyance, alors qu'en fait, c'est la pire des croyances, celle qui ne se sait pas croyance. Donc c'est ça une illusion, c'est la croyance qui ne se sait pas croyance. Voilà, donc on peut dire au terme de cette première partie qu'il semble qu'il soit impossible de vouloir supprimer les croyances de l'esprit humain. On aura beau essayer de fonder les croyances pour les faire accéder au savoir, on aura beau essayer de démontrer, il semble qu'il y ait une racine beaucoup plus profonde et que la présence du vrai ne suffise pas à dissiper la croyance. Alors, on va prendre cela au sérieux et se dire que la croyance est un fait irréductible. Et on peut se demander alors, que valent les croyances pour la raison ? Ont-elles une valeur ? Ont-elles un sens pour la raison ? Voilà, ce qui m'amène à ma deuxième partie, où j'essayais de montrer qu'il y a des croyances raisonnables, qu'il y a des croyances qui ont un sens pour la raison. Alors, je vais montrer non seulement que la raison peut admettre certaines croyances, sans les réfuter, mais d'autre part que peut-être elle en a besoin, que la raison a besoin de certaines croyances. Alors, cette thèse, pardonnez-moi, je cavale un peu, le temps passe. Cette thèse, en fait, elle repose quand même sur une conception de la raison qui n'est pas celle que j'ai développée dans la première partie. L'idée que la raison, en fait, est limitée, que la raison est impuissante à tout démontrer. Nous pouvons démontrer, mais dans certaines limites. Nous sommes impuissants à tout démontrer. Et donc, si la raison est limitée, alors il y a une place pour la croyance. Voilà ce que j'ai essayé de montrer. Alors, cette fois, je vais m'appuyer sur Pascal, qui a écrit notamment un petit traité qui était, je crois, un projet de préface pour un manuel de mathématiques pour les jeunes filles de Port-Royal, qui s'appelle « L'esprit de géométrie ». Très court traité, traité de démonstration, très éclairant, que vous pouvez lire, parce qu'il est vraiment simple et surtout très court. Et Pascal dit que nous avons un idéal de démonstration. Nous pouvons penser un idéal de démonstration, c'est sûrement à Descartes qu'il pense quand il fait référence à cet idéal de démonstration. L'idéal de notre raison, c'est de tout définir et tout démontrer, c'est-à-dire ne rien admettre. L'idéal, ce serait de ne tenir pour vrai que ce qui est défini et démontré, tout définir, tout démontrer. Le problème, c'est que c'est impossible. Ça nous amène, l'argument est vieux comme le monde, ça nous amène à ce qu'on appelle une régression à l'infini. Si on doit démontrer, il faut poser des principes. Ces principes eux-mêmes devront être démontrés en s'appuyant sur des principes qui eux-mêmes devront être démontrés, etc., etc. De même, si on doit définir, on va utiliser des mots qui devront eux-mêmes être définis par des mots qui seront eux-mêmes définis, etc., etc. Vous avez déjà fait l'expérience, vous cherchez un mot dans un dictionnaire, vous ne comprenez pas la définition, vous allez chercher d'autres mots, puis d'autres mots, puis d'autres mots, et cela est sans fin. Donc, c'est ce qu'on appelle la régression à l'infini. Donc tout définir, tout démontrer, en fait, ça nous empêche de démontrer, parce que démontrer, c'est normalement conclure. C'est le mouvement qui va des principes vers la conclusion. Or, tout définir, tout démontrer, c'est totalement antinomique, parce qu'on ne va pas des principes vers la conclusion, on part de la conclusion et on remonte toujours vers des principes, des principes, des principes, des principes. Donc on n'arrive jamais à affirmer quoi que ce soit. Donc ce paradoxe est assez frappant pour Pascal, c'est que d'un côté on peut penser cet ordre parfait de démonstration et en même temps on est absolument incapable de le réaliser. Notre esprit ne le peut pas. Donc on est obligé d'admettre. Au point de départ de la démonstration, il y a de l'indémontrable. Il y a de l'indémontrable. Alors il dit par exemple qu'il faut admettre les premiers termes et les premiers principes. Des termes comme... Il faut admettre en géométrie, c'est-à-dire en mathématiques. En mathématiques, on a cette chance, dit Pascal, que les premiers termes et les premiers principes, les premières propositions les plus simples, en fait, nous sont donnés par ce que Pascal appelle la lumière naturelle. Lumière, métaphore de la raison. Donc, il y a une faculté rationnelle qui consiste non pas à démontrer, mais à recevoir des données premières. La raison, ce n'est pas seulement la démonstration, le processus de démonstration. La raison, c'est aussi la faculté de recevoir des principes, des données premières. Donc, par exemple, la notion d'espace, la notion de nombre, de quantité, ces notions-là, si on essaye de les définir, ça sera encore plus obscur qu'avant la définition. Donc, Voilà, on va juste se contenter de s'accorder sur la désignation, de s'accorder sur la chose dont on parle, mais sans chercher à philosopher sur la nature du temps ou de l'espace ou de la quantité, parce qu'on n'aura jamais commencé la démonstration si on s'attache à définir des notions aussi simples. Donc, en fait, ce que dit Pascal, c'est que, fort heureusement, malgré cette impuissance à tout démontrer, la géométrie peut arriver au vrai. La géométrie, c'est-à-dire les mathématiques, en général, hein, pour le vocabulaire du XVIIe. Malgré notre impuissance à tout démontrer, on peut quand même arriver au vrai, puisqu'il y a une lumière naturelle qui, dans l'ordre de la connaissance mathématique, nous donne les premiers principes. Donc, on va poser les premiers principes, puis ensuite on va pouvoir construire des démonstrations qui arriveront véritablement à des conclusions. En revanche, ce que dit Pascal, c'est que ce qui passe la géométrie nous surpasse. En dehors de la géométrie, il n'y a pas de vérité rationnelle. C'est-à-dire que les démonstrations rhétoriques, par exemple, enfin, qui ne sont pas vraiment des démonstrations, hein, mais dans tout autre domaine, il n'y aura pas autant de vérité parce qu'on n'a pas des premiers principes aussi fermes que ceux qu'on a en mathématiques. Donc vous voyez, avec Pascal, ce qu'on voit, c'est que la raison humaine, elle tient le milieu entre tout connaître et rien connaître. Voilà. On ne peut pas tout connaître, mais on ne peut pas non plus rien connaître. On connaît quelque chose, et dans cet ordre-là, on peut atteindre au vrai. Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'on démontre tout. Il faut, au départ, croire. Alors quand je dis croire ici, c'est tenir pour vrai sans démonstration. On tient pour vrai sans démonstration les premières définitions, les premiers principes, comme par exemple l'axiome « le tout est plus grand que la partie » ou le principe de non-contradiction, il est faux de dire qu'une chose peut être et ne pas être en même temps et sous le même rapport. On tient pour vrai sans démontrer. Alors c'est une croyance dans un tout autre sens que celle dont on a parlé au départ. C'est en fait un postulat ou un axiome. On reçoit le vrai, on ne le constitue pas. On peut donc dire qu'il y a des croyances raisonnables, au sens où elles sont permises par la raison. Certes, pas démontrées, sinon ce ne serait pas des croyances, mais permises par la raison, non réfutées. Alors je le disais, ça suppose de considérer que la raison, ce n'est pas seulement la faculté du vrai et du savoir, mais la raison, c'est aussi la capacité de penser ses propres limites. La raison humaine, elle n'est pas seulement portée vers la connaissance du monde extérieur ou de la nature, mais aussi la connaissance de soi. La raison connaît ses propres limites et les pense. Et les limites humaines, c'est d'abord celle de son expérience. L'homme a une expérience limitée, limitée par des conditions de l'expérience qui sont d'être dans l'espace et dans le temps. Et donc, du coup, on peut se demander si l'homme peut vraiment connaître des objets qui surpassent l'expérience, qui sont au-delà de son expérience. Ça le limite. Alors, cette question, elle est développée par Kant. Le philosophe Emmanuel Kant, c'est celui qui a poussé le plus loin cette idée que la raison est critique d'elle-même, que la raison examine ses propres pouvoirs et ses propres limites. Alors, il le fait dans la critique de la raison pure, notamment. Et donc, pour un concept comme Dieu, par exemple, mais aussi l'âme, la liberté. Des concepts comme ceux-là, en fait, Kant dit qu'ils ne correspondent pas à une expérience possible, parce que c'est des concepts inconditionnés. Ils ne sont pas dans les conditions de notre expérience, que sont l'espace et le temps. Donc, par définition, nous ne pouvons connaître Dieu, parce que Dieu, c'est l'objet qui est hors de tout champ de l'expérience. Alors il y a une distinction qui est intéressante, c'est la distinction entre connaître et penser, pour comprendre cette idée de Kant. On ne peut pas connaître Dieu, parce que connaître, c'est quoi ? C'est avoir une idée dans son esprit et confirmer l'idée par expérience. Une connaissance, c'est toujours un concept et une expérience. D'accord ? Une confirmation par l'expérience. On ne peut pas connaître Dieu, mais on peut le penser. On peut avoir une idée de Dieu. Donc, ce que va montrer Kant, c'est que dans le domaine de la connaissance, il n'y a pas de vérité démonstrative sur les objets inconditionnés comme Dieu, la liberté, l'âme je vais juste parler de Dieu pour simplifier entre guillemets. Donc il n'y a pas de connaissance, c'est-à-dire qu'en fait quand la raison s'aventure au-delà de l'expérience possible, elle arrive à ce que Kant appelle des antinomies, des contradictions. C'est-à-dire qu'on peut, pour vraiment résumer les choses, on peut aussi bien montrer que prouver hein, que Dieu existe et qu'il n'existe pas. Il y a des preuves de l'existence de Dieu, tout à fait rationnelles, hein, des démonstrations que je ne peux pas refaire maintenant parce que je n'ai pas le temps, même si c'est passionnant. Donc on peut tout aussi bien prouver que Dieu existe ou qu'il n'existe pas. On peut tout aussi bien prouver qu'il y a une liberté dans le monde et qu'il n'y en a pas. Donc c'est en gros les grands débats philosophiques qui ont opposé les idéalistes et les empiristes. Ou les idéalistes et les sceptiques. Non, les idéalistes et les empiristes. Donc la question n'est pas tranchée par la raison. La raison théorique. Mais si ces idées ne peuvent pas être connues, en revanche, elles peuvent être pensées. On peut penser Dieu. Et ce que dit Kant, c'est que notre raison a un intérêt à pencher plutôt du côté de la thèse. On peut à la fois montrer la thèse et l'antithèse, Dieu existe, Dieu n'existe pas, mais notre raison, elle a un intérêt. C'est plutôt de croire que Dieu existe. C'est plus facile de croire que Dieu existe pour Kant qu'il n'existe pas. Mais vous voyez que là, on n'est plus dans des raisons démonstratives. Quand on parle d'intérêt. On pourrait dire que c'est une sorte d'utilité, mais c'est évidemment pas du tout une utilité au sens de l'utilitarisme, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand on passe dans le domaine de la moralité, de la vie pratique, de l'action, Kant pense que si Dieu existe, ou si on croit en la possibilité d'être libre, ou si on croit en l'existence de l'âme, c'est-à-dire en l'immortalité de l'âme, on a beaucoup plus de raisons d'être un sujet vraiment moral. Il y a trois questions fondamentales que pose la raison pour Kant. C'est que puis-je connaître, d'accord, les limites de la raison ? Que dois-je faire, la moralité ? Et que m'est-il permis d'espérer ? Eh bien, croire en l'existence de Dieu, par exemple, ça me donne beaucoup plus de raisons d'espérer que de ne pas croire. Pourquoi ? Parce que... Dans le domaine pratique, Kant montre qu'il y a une loi morale et que être rationnel, c'est vraiment agir en fonction de la loi morale et pas en fonction de mon intérêt, de mes sentiments, de ma subjectivité. Agir en fonction de la loi morale universelle. Eh bien, le problème, c'est qu'il y a une tension très forte entre cette action à laquelle je suis d'une certaine manière contraint parce que je sens bien qu'il y a la loi morale en moi. Donc j'essaye d'agir vraiment par devoir, et en même temps je vois bien que je suis impuissant à réaliser le bien dans le monde. Je suis désespérée par le fait qu'il y a une certaine impuissance de mon action. J'aurais beau être extrêmement morale, et j'aurais beau faire en sorte qu'une majorité de gens le soient, on voit bien qu'on a la peine à réaliser le bien dans le monde. Et donc, croire en Dieu ou croire en l'immortalité de l'âme, c'est me donner suffisamment de champ pour espérer que, au final, mon action morale ait véritablement un effet. Donc, par exemple, l'action morale ne nous donnera pas le bonheur sur Terre, mais si on croit en la vie éternelle, on peut avoir des raisons d'espérer que, finalement, notre conduite nous donne véritablement accès au bonheur. Alors, on voit que non seulement la croyance, elle est tolérée par la raison, parce qu'il y a des limites de la raison, mais qu'en plus, elle est requise par la raison sur le plan pratique, sur le plan de l'action. C'est-à-dire, pour agir en sujet moraux, on a besoin de croire. On a un intérêt à croire, par exemple en Dieu. Et on voit que, en fait, la croyance, jusqu'à présent, on l'a plutôt analysée du côté du savoir, de la théorie. Hein. Mais en fait, la croyance, elle est plutôt du côté de la pratique et de l'action. On parle souvent de conviction. C'est une forme de croyance, la conviction. La conviction, qu'est-ce que c'est ? Certes, c'est une croyance subjective, mais la conviction, c'est ce qui pousse à agir. Quand on dit « j'ai des convictions, moi, monsieur », c'est « j'ai des convictions et donc je me bats ». J'y vais, j'ai pas peur. On dit de celui qui a des convictions, parfois même « oula, il a la foi, lui, il y croit ». Hein, donc ça va être tel aventurier qui n'a pas peur de braver les dangers, ça va être tel professeur qui s'aventure en des terrains hostiles, il a la foi, il a des convictions. Et d'ailleurs, c'est souvent pour ça que la croyance paraît irrationnelle. C'est-à-dire que celui qui a des convictions qui le font agir, on a l'impression qu'il est totalement imperméable au raisonnement. On lui dit « mais t'es fou, tu devrais pas faire ça, t'es insensé, regarde, tu vas pas faire ça, etc. » Et puis, celui qui a des convictions le fait quand même. C'est pour ça qu'on dit « il a la foi ». Enfin, non pas en parlant de foi religieuse, mais on dit parfois « il a la foi » au sens où il a une conviction tellement profonde que ça le pousse à agir. Donc ça me permettra de passer à une troisième partie. On a vu qu'il y avait une articulation possible entre la raison et la croyance, au sens où toutes les croyances ne sont pas réfutées par la raison. Donc il peut y avoir une harmonisation. Alors j'aurais aimé développer, mais je n'ai pas le temps, mais ça me permet juste d'y faire allusion. Par exemple, un effort pour cette harmonie entre le champ de la raison et le champ de la croyance, ou de la foi, c'est par exemple celui qui a été fait par saint Thomas d'Aquin et les théologiens du Moyen-Âge. Thomas d'Aquin lui-même, d'ailleurs, a lu beaucoup des théologiens musulmans et juifs, Maïmonide pour les juifs, et puis Averroès, par exemple, pour les musulmans. Et donc, ça peut être quelque chose d'assez caractéristique du XIIe, XIIIe siècle au Moyen-Âge, que cette volonté d'harmoniser le champ du rationnel et le champ de la foi, en montrant que la foi ne réfute pas la raison, et qu'évidemment, tout ce qui est de l'ordre, tout ce qui contredit la raison doit être évacué. C'est pour ça que saint Thomas, par exemple, s'appuie sur Aristote, qui est un païen, hein, sans quoi il a rencontré pas mal de difficultés. Donc il va retrouver la philosophie d'Aristote. Il va montrer que la philosophie, dans son ordre, a une part de vérité, notamment pour parler de l'expérience humaine. Mais il montre que la foi donc ne contredit pas la raison, mais la raison ne contredit pas non plus la foi. Justement parce qu'elle a ses limites et que la foi est d'un autre ordre. Et d'autre part, la foi appelle la raison. C'est-à-dire qu'il faut comprendre ce à quoi l'on croit. Ça, je vais y revenir parce que j'ai parlé de Saint-Augustin. Mais voilà. Donc il y a une harmonie possible entre le champ du rationnel et le champ de la croyance. Harmonie ne veut pas dire confusion. Hein ? Il y a une distinction de deux ordres qui ne se réduisent pas l'un à l'autre. Sinon, ça fait des conflits. Par exemple, je sais pas, l'affaire Galilée, c'est un conflit entre la foi et la raison qui se mettent sur le même plan. Comme si, par exemple, la Genèse était pertinente pour parler de la place de l'homme dans l'univers, au sens physique. Hein. Voilà, on met la foi et la raison sur le même plan. Là, au contraire, on essaye de distinguer les ordres et de montrer qu'il y a une harmonie entre les deux, sans pour autant que l'un empiète sur le champ de l'égalité de l'autre. Cependant, donc, ce que j'ai montré aussi, c'est qu'il y avait harmonie possible entre le rationnel et la croyance, mais qu'en même temps, la croyance n'était pas uniquement du registre du rationnel. Parce que ce n'est pas à cause d'arguments rationnels qu'on croit. J'ai dit, il existe des démonstrations de l'existence de Dieu. Quand saint Thomas en fait, par exemple, il ne pense pas du tout convertir avec des preuves de l'existence de Dieu. Il ne les appelle pas preuves, d'ailleurs. Il dit que c'est des voies d'accès. Son but, c'est juste de montrer que croire que Dieu existe, ça n'est pas totalement déraisonnable. Il y a des arguments. Pour autant, ces arguments ne sont pas infaillibles, et ce n'est pas pour ça qu'on va croire en Dieu. Et donc, même s'il y a une rationalité de la croyance, un caractère raisonnable de la croyance, pour autant, le croyant, celui qui croit, ne suspend pas sa croyance à une preuve. Je vais vous donner un exemple plus simple. Je fais confiance à mon mari. C'est tradition de parler de son mari ou de sa femme, donc je vais le faire juste un tout petit peu. Je fais confiance à mon mari. Mais je n'ai pas demandé des arguments de sa bonne foi avant de lui faire confiance. Ou de même, je fais confiance à celui qui me fait une promesse. Si je crois en cette promesse, c'est pas parce que on m'a montré que la promesse allait se réaliser, par définition. Hein. Si je crois à la promesse, je crois en quelque chose qui n'est pas encore déployé dans le temps, hein, à quelque chose qui c'est un pari sur l'avenir. Donc, en fait, il y a une rationalité de la croyance, mais il y a aussi quelque chose de profondément irrationnel, au sens où on croit parce qu'on prend un risque. On dit parfois qu'on parle c'est un saut, c'est-à-dire que c'est pas la conclusion d'un raisonnement. On prend un risque, on se jette à l'eau. Et ce que je vais montrer, c'est qu'en fait, fondamentalement, contrairement à ce que j'ai laissé croire jusqu'à présent, Croire, c'est pas premièrement croire à quelque chose, mais c'est croire en quelqu'un. On croit quelqu'un avant de croire quelque chose, avant de poser une affirmation. Et c'est parce que croire, c'est croire en quelqu'un que c'est irrationnel, mais que seul un être de raison peut croire. C'est la thèse de ma troisième partie. Je vais montrer donc dans cette troisième partie que la croyance manifeste une certaine intelligence de l'irrationnel. Alors, je vais quand même pas montrer la rationalité de l'irrationnel, hein, ça serait vraiment manier les paradoxes pour le plaisir, mais je vais essayer de distinguer intelligence et raison. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence ? Bon, je vais pas définir l'intelligence, ça serait trop, ça me paraît impossible de faire ça maintenant, mais juste au sens courant, quelqu'un d'intelligent, c'est pas seulement quelqu'un de rationnel. C'est quelqu'un qui utilise sa raison, on va dire, à bon escient. Qui l'utilise pour des fins raisonnables. Hein. Par exemple, la bombe atomique, c'est peut-être très rationnel, mais c'est pas très intelligent. Voilà. Bon, pour dire les choses un peu grossièrement. Et en ce sens, parfois, on peut dire qu'il y a une utilisation de la raison qui n'est pas à bon escient. Alors, qu'est-ce que ce serait la finalité de la raison ? Bon, je ne sais pas si je peux faire le tour de la question là maintenant, mais en tout cas, s'il y en a une, c'est peut-être de connaître le vrai. C'est en tout cas celle qu'on a présupposée depuis le départ. Et donc parfois, on peut utiliser la raison pas pour connaître le vrai, pas en vue de la connaissance. Alors que l'intelligence, intelligere, c'est saisir. Hein, c'est l'intelligence, c'est la compréhension, en fait, la saisie. Hein. Et intelligere, ça se traduirait par comprendre. Et donc l'intelligence, non seulement elle raisonne, mais surtout elle saisit, elle connaît. Et donc, il y a une certaine folie de la rationalité. Il y a une folie du rationnel. Alors, c'est pas la bombe atomique seulement à laquelle je fais allusion, mais justement, peut-être que la raison qui veut douter de tout, et même de ce dont on n'a pas vraiment de raison de douter, est une raison folle. En tout cas, c'est une raison sûrement condamnée à l'absurde, à l'impossibilité de rien connaître. Parce qu'en effet, il y a des croyances qui ne sont pas fondées, hein, qui ne sont pas démontrées, strictement parlé, mais dont on n'a absolument aucune raison de douter, et dont il serait plus fou de douter que d'y croire. Parfois, il est plus fou de douter que de croire. Alors, c'est un philosophe du XXe siècle qui s'appelle Ludwig Wittgenstein, donc qui est autrichien, mais qui a essentiellement vécu en Angleterre et enseigné en Angleterre. Et il fait une critique sévère de Descartes, ou du cartésianisme peut-être plutôt, notamment dans un livre qui s'appelle « De la certitude ». Alors je vous lis quelques passages qui sont assez parlants. « Je crois que j'ai des ancêtres, et que tout homme en a. Si je voulais douter de l'existence de la Terre, longtemps avant ma naissance, il me faudrait mettre en doute tout ce que je puis trouver, qui pour moi est solidement fixé. Donc oui, je peux douter que la Terre existait avant moi. Je peux douter que j'ai eu des ancêtres. Je peux douter que l'Amérique se trouve là où on m'a enseigné qu'elle se trouve. Je peux toujours douter. Mais si je doutais de ces croyances premières et fondamentales, en fait, je n'aurais plus aucune base solide sur laquelle m'appuyer pour ensuite raisonner et fonder d'autres croyances. Il dit que pour moi quelque chose soit solidement fixé n'est pas fondé sur mon imbécilité ou ma crédulité. C'est pas parce que je crois, parce qu'on me l'a dit, que la Terre est ronde, que je suis un imbécile. Je le crois justement parce que je gagne du temps en le croyant. Parce que comme je peux toujours douter, si mon but c'est quand même d'essayer d'avancer un peu dans des raisonnements, je dois quand même postuler un certain nombre de croyances de base. Et notamment, je dois faire confiance dans mes maîtres, et faire confiance dans mes parents, et faire confiance dans mes ancêtres. Enfin, faire confiance, oui, dans une sorte de tradition. Évidemment, c'est pas du tout cartésien, ça, hein, parce que Descartes, c'est le penseur qui commence par congédier la tradition. Pour y revenir ensuite, mais il la congédie. Je vous donne deux dernières citations. L'enfant apprend en croyant l'adulte. Le doute vient après la croyance. Donc, de toute façon, ce que montre Wittgenstein, c'est que le doute est une posture artificielle. En fait, Descartes feint de douter, mais il doute jamais vraiment. Parce que pour douter, il faut d'abord avoir cru. On ne doute que parce qu'on a d'abord cru. Donc il y a toujours des croyances fondamentales. C'est pour ça qu'il dit le doute vient après la croyance. Et donc c'est celui qui doute qui est dans une position de contradiction. Parce que d'un côté, il pose comme vrai, d'un autre côté, il essaye de douter. Mais rien que le fait de douter, ça suppose un certain nombre de croyances de base qu'on ne peut pas éliminer. Allez, une dernière. J'ai appris une masse de choses. Je les ai admises par confiance en l'autorité d'autres êtres humains. Puis au cours de mon expérience personnelle, nombre d'entre elles se sont trouvées confirmées ou infirmées. Donc en fait, ce qu'on voit ici, c'est la valeur du témoignage pour la connaissance, qui n'est plus le refus de la croyance. Évidemment, le témoignage, la valeur du témoignage, donner valeur au témoignage d'autrui, c'est nous mettre dans une position de dépendance. On n'est pas fondement, le sujet n'est pas l'unique fondement de la vérité. Mais en même temps, cette dépendance n'est pas nécessairement irrationnelle. Déjà parce que on ne croit pas n'importe qui. N'importe qui n'a pas valeur de témoin. On ne croit pas des gens qui ne sont pas dignes de créance. On peut développer l'idée qu'il y a des vertus intellectuelles qui font qu'il y a certaines personnes qu'on va plus facilement croire que d'autres. Des personnes qui ont montré leur honnêteté intellectuelle, qui ont montré leur résistance à l'illusion, justement à la crédulité, qui ont montré une certaine perspicacité, une santé mentale, etc. D'ailleurs, quand on va chercher des témoins dans une enquête, on s'assure de leur santé mentale, on s'assure de leur honnêteté, etc. Donc on ne croit pas n'importe qui. Il y a des raisons de croire telle personne plutôt que telle autre. Alors, ce n'est pas des raisons qui sont fondées sur la démonstration de la vérité de la croyance elle-même, mais c'est des raisons qui reposent sur la vertu intellectuelle de la personne. Dernier point. 5 minutes. Cette idée qu'on croit quelqu'un avant de croire quelque chose, c'est bien entendu l'idée de la foi. Le concept de foi, je ne l'ai pas encore vraiment défini. La foi, ça vient de fides, qui veut dire confiance. Et donc, dans la foi, par différence avec la croyance, on ne croit pas en premier lieu quelque chose, mais quelqu'un. Croire que Dieu existe, ce n'est pas la foi. Ou, par exemple, les démons, dans la Bible, croient que Dieu existe. Hein, mais ils n'ont pas confiance en Dieu, si vous voulez. Donc la foi, ce n'est pas, une position métaphysique. Mais c'est un abandon à Dieu. Donc c'est là où on voit que la croyance, en tout cas dans ce cas-là, est bien plus de l'ordre de l'action, de la décision, qui en fait est plutôt un consentement et une acceptation, on va le voir, que de l'ordre de la connaissance pure, ou de du rapport à la vérité. Alors... Si on parle de foi, je m'attarde un peu sur saint Augustin. Dans les confessions de saint Augustin, donc c'est le récit d'une conversion qui est écrit après coup. Confession, ça veut dire à la fois confesser sa foi et puis en même temps confesser son péché et donc raconter l'itinéraire qui d'un éloignement de Dieu l'a fait passer à la foi. Alors, il y a plusieurs étapes que je ne vais pas toutes retracer, mais j'en retiens quelques-unes, des étapes de la conversion, du passage de la... du scepticisme à la foi. Alors d'abord, avant le scepticisme, il y a l'étape manichéenne, c'est-à-dire que on peut dire qu'Augustin souscrit un certain nombre de superstitions. C'est une hérésie qui a cours à l'époque d'Augustin, le manichéisme, donc qui est, je ne vais pas trop développer, mais qui une sorte de révélation, de savoir auquel il faut souscrire. Et les initiés qui connaîtront ce savoir seront sauvés. Et en fait, alors il y a une première purge de l'esprit de saint Augustin par rapport à ces superstitions qui se fait par la philosophie. Augustin abandonne le manichéisme parce qu'il rencontre les philosophes. Il lit notamment Cicéron. Et il se rend compte que... alors, vous pouvez aller voir ça au chapitre 3 du livre 5 des Confessions. Il découvre qu'en fait, il y a des inepties dans le manichéisme. On a un savoir qui est en fait un mythe et qui est totalement contradictoire comme une superstition avec la raison. Donc, par exemple, qu'il y a une lumière salvatrice, qu'il ne faut pas manger, etc. Et tout ça, en fait, ne se justifie pas par des raisons. Donc... Première étape, tout à fait négative, hein, qui n'est pas encore une conversion, renoncer aux superstitions. Il rencontre la philosophie, donc la rationalité, et en même temps, il est un peu déçu parce que la philosophie le mène au scepticisme. C'est-à-dire qu'il rencontre, qu'est-ce que c'est que le scepticisme ? C'est non pas de penser que tout est faux, mais plutôt que tout est vrai. Qu'il y a des doctrines philosophiques très contradictoires et qui pourtant sont tout à fait séduisantes les unes et les autres. Donc on n'arrive pas à trancher. Et donc il loue l'intelligence des philosophes, et en même temps il voit bien que quelque chose manque. Donc il y a une autre étape qui est d'accorder du crédit à la Bible. Augustin raconte que dans sa jeunesse, il donnait pas trop de crédit à la Bible parce que par rapport aux écrits des philosophes, c'est beaucoup moins rationnel, c'est beaucoup moins convaincant pour la raison. Et puis petit à petit, il se rend compte que finalement, les apôtres qui ont écrit, les prophètes sont dignes de foi au sens où ils sont dignes de créance. Sa raison s'ouvre et il discerne dans la Bible, malgré une apparente simplicité, un certain nombre de raisons convaincantes. Mais ça n'est pas encore une conversion. Sa raison, certes, n'a plus de réticence. Sa raison reconnaît une certaine rationalité dans la Bible, une certaine intelligence même dans la Bible, mais ça n'est pas encore une conversion. L'épisode de la conversion, il a lieu au livre 8, chapitre 12. En fait, c'est une grâce, un don. C'est-à-dire que Augustin entend « prend et lit », une phrase prononcée par un enfant dans un jardin à côté, il va ouvrir le texte, il va tomber sur une phrase qui lui demande de tout laisser, et il va tout laisser et se convertir. Donc c'est un changement de vie. Et d'autre part, il va découvrir que Dieu, en fait, qu'il cherchait à l'extérieur, est, vous connaissez la phrase, plus intime à moi-même que moi-même. Dieu est à la source de son être. Et en fait, ce qu'il va critiquer par la suite, c'est que la raison des philosophes, elle refuse de se voir fondée par Dieu. Elle n'est pas allée chercher jusqu'au fond de son être, parce qu'au fond de son être, la raison ne peut pas elle-même se fonder. Au fond de son être, la raison est fondée par Dieu, qui est le principe même de cette raison. C'est ça que veut dire notamment le Dieu plus intime à moi-même que moi-même. C'est-à-dire tout ce qui procède de moi est toujours fondé par Dieu, qui est toujours plus profond et premier. Et ainsi, ce que va montrer Augustin, c'est qu'il est nécessaire de comprendre pour croire. Donc il y a tout un travail préparatoire de la raison qui va permettre la conversion, même si évidemment la conversion ne se réduit pas du tout à ce travail préparatoire de la raison. Mais il fallait une certaine purge des superstitions avant que la conversion soit possible. Et avant que la conversion soit possible, il fallait aussi faire confiance aux témoins, faire confiance aux apôtres et aux prophètes, aux textes. Cependant, la conversion, c'est quelque chose de plus, c'est ce saut, c'est cette confiance en Dieu qu'il n'avait pas jusque-là. Comprendre pour croire. Mais il faut aussi croire pour comprendre. Alors ça, c'est une phrase célèbre d'Augustin qui est dans le sermon 43. On me dit, chacun veut comprendre, il n'est personne qui n'ait ce désir. Mais tous ne veulent pas croire. On me dit, je dois comprendre pour croire. Moi, je veux bien croire en Dieu, mais d'abord, expliquez-moi pourquoi il existe, pourquoi il aurait créé le monde, etc. On me dit, je dois comprendre pour croire. C'est un désir légitime, dit Augustin. Désir légitime parce que les êtres sont doués de raison. Mais en même temps, je réponds, crois pour comprendre. Et donc, ce que montre Augustin, c'est dès lors que ce saut de la foi est fait, alors, ce qui n'était pas compris par les simples raisons des philosophes qui mènent au scepticisme, qui ne permettent pas de conclure, eh bien, cela s'éclaire. Il faut le saut de la foi pour qu'ensuite la raison soit éclairée. Il faut que la raison accepte sa limite, accepte d'être fondée, de revenir à son principe, qui est le Dieu créateur, pour qu'ensuite elle soit menée à la vérité. Donc il y a une complémentarité de la foi et de la raison. C'est-à-dire que la raison prépare la foi, même si la raison n'explique pas la foi. La foi est un don. La foi est une réception. La foi est un pari. Mais en même temps, dès lors que ce pari est fait, donc dès lors qu'il y a ce saut dans l'irrationnel, alors la raison trouve son fondement et la raison peut être éclairée. Donc il y a vraiment une intelligence de la foi, ensuite, chez Augustin. C'est-à-dire que la foi va lui permettre de comprendre ce qui n'avait pas compris jusqu'alors. Alors quand je dis comprendre, ça ne veut pas dire démontrer. Évidemment, la foi n'est jamais démonstration. La foi, en ce sens, n'est pas un savoir objectif et partageable. La foi, elle est vraiment ce saut subjectif, mais qui permet en même temps une intelligence qui n'aurait pas existé sans elle. Ainsi, ça me permet de conclure en disant que, tout d'abord, ce qu'on retient, c'est qu'il faut distinguer différents modes de la croyance. Toutes les croyances ne sont pas irrationnelles, certaines le sont. Et il y a vraiment des ressorts irrationnels de la croyance. On peut dire que celles qui sont vraiment irrationnelles, c'est celles qui contredisent la raison, qui sont réfutées par elle et qui tiennent quand même. Mais il y a vraiment une racine profonde de ces croyances-là en nous. Cependant, on a tenu qu'on n'a pas obligé de croire uniquement ce qui est démontré, et même c'est absurde de croire uniquement ce qui est démontré, parce qu'on n'a pas besoin d'y croire, mais qu'on peut croire ce qui n'est pas réfuté. Ce qui sous-entend de penser que la raison a des limites intrinsèques et que ce n'est pas seulement une question de temps et de progrès, que la raison a des limites qui l'empêchent à tout jamais de démontrer certaines choses. Ce que je soutiens, mais qui n'est pas forcément la conviction de tout le monde. Hein. Dès lors, un être rationnel peut raisonnablement avoir des croyances. La croyance raisonnable, qu'est-ce que c'est ? C'est un consentement, une confiance qu'on accorde soit à un témoin, soit à un ami, soit en Dieu pour le croyant dans le cadre de la religion. Et ce consentement n'est pas une passivité, c'est une liberté. Hein, consentir, c'est être libre. Hein, on voit que la liberté est en jeu, l'action libre est en jeu. Et ainsi, on peut dire que celui qui croit, il s'engage personnellement. Donc il ne peut évidemment prétendre avoir un savoir objectif quand il croit. Hein, ça c'est acquis. La croyance n'est pas un savoir objectif, mais en même temps, ce n'est pas sans raison qu'il tient à la vérité de ses convictions. Donc Scannarell, il a un raisonnement faible, certes, un peu ridicule même, et Molière joue sur l'effet comique, mais ce n'est peut-être pas le plus déraisonnable des deux.